homme et les réponses de Dieu. Ce soir, comme il l'a été dit, après le cri « Où est Dieu ?», après le cri d'hier « Pourquoi ?», nous avons un troisième cri « Jusque à quand ?». Et l'on pourrait dire aussi que Jésus, quand il était sur la terre, lui-même, alors, s'était crié « Jusque à quand ?» quand il était au milieu des hommes. Il était venu pour enseigner ce monde. Ces hommes qui s'étaient éloignés de Dieu son Père, qui s'étaient éloignés du Créateur, à un tel point que c'est Dieu lui-même qui a dû dire « Où es-tu ?» Eh bien, Jésus est venu. Jésus est venu. Il s'est manifesté, il a répondu à ce besoin de la présence de Dieu. Et puis, il est venu aussi pour éclairer plusieurs de nos pourquoi. Mais quand il était sur la terre, et qu'il enseignait justement, il y a eu des moments difficiles pour lui. Et lui aussi a dit « Jusque à quand ?» Jusque à quand ? Quand il est redescendu de la montagne de la Transfiguration, au chapitre 17 de Matthieu, vous avez cela aussi dans le chapitre 9 de Luc et dans le chapitre 9 de Marc. Mais Jésus a trouvé avec ses trois disciples qu'il avait accompagnés, les autres disciples qui étaient restés dans la plaine et qui n'étaient pas arrivés à guérir le jeune homme que le Père avait amené, qui était un jeune homme lunatique, possédé par un démon. Et ils n'ont rien pu faire. Alors Jésus, en entendant ce Père, regarde ses disciples, c'est à ses disciples qu'il dit ça. « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Puis ensuite, « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Je dis simplement cela pour vous montrer que Jésus aussi a eu ses expressions sur les lèvres « Jusqu'à quand ?» Verset 17, chapitre 17 de Matthieu. Mais ce « Jusqu'à quand ?» c'est donc le cri d'un cœur, le cri d'une âme alors, qui est dans la détresse, lors même qu'elle a accepté son épreuve de la main de Dieu. On a accepté notre épreuve. Parce qu'on sait, comme on l'a vu hier, que rien ne nous arrive sans la volonté de Dieu. Comme il l'est dit dans les Lamentations de Jérémie, je vous cite le verset, « Qui dit une chose, elle arrive, si Dieu ne l'a pas commandée, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots, elle est bien ?» Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37 à 38. Et alors on peut penser aussi à Job qui dit à sa femme, « Mais nous avons reçu les biens de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal. » Donc, nous sommes maintenant devant un état, une situation d'une âme qui a accepté donc l'épreuve. Mais qui voudrait savoir jusqu'à quand cela va durer. Et c'est surtout dans les psaumes qui expriment au fond les besoins des croyants de tous les temps qu'on trouve cette question, jusqu'à quand? Le fidèle voudrait savoir le terme, la limite de son épreuve, et peut-être même son issue. C'est vraiment l'épreuve du temps. Seigneur, j'accepte de passer par là, mais je voudrais savoir jusqu'à quand. Alors je dirais ici que seule la connaissance intime de Dieu nous apprend qu'on peut lui faire confiance là aussi, et que Dieu est un Dieu de mesure qui n'envoie pas d'épreuve qui puisse aller au-delà de nos forces. L'apôtre Paul en est absolument convaincu. Quand il donne cette parole, moi j'avais 17 ans, j'étais au fond de mon lit dans un hôpital en Suisse, quand une infirmière est venue me dire « Gaston, j'ai reçu cette parole pour toi », et elle m'a cité, et ça m'est resté pour toujours, 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il fera aussi l'issue, ou il vous donnera le moyen d'en sortir. » Mais on ne sait pas quel moyen, mais il dit qu'il nous donnera le moyen d'en sortir. Est-ce que vous le croyez ce soir? Moi, je ne sais pas quelles sont vos épreuves. Mais quelles qu'elles soient, que ce soit des épreuves matérielles, que ce soit des questions matérielles ou d'autres questions, des questions d'ordre moral ou familial, le Seigneur peut vous en sortir. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur peut vous donner le moyen d'en sortir. Il préparera l'issue pour que vous puissiez supporter cela. Et avant l'apôtre Paul, je dirais que Jérémie nous a aussi communiqué cette certitude divine. J'aime beaucoup Jérémie 29, verset 11. « Moi, l'Éternel, je connais les pensées que j'ai à votre égard. Ce sont des pensées de paix et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. » Il semble pourtant que notre avenir est bouché, que notre avenir est compromis. Et voilà la parole de Dieu qui vient avec force nous dire que le Seigneur connaît les pensées qu'il a. Vous pouvez lui faire confiance. Notre frère a lu un verset que j'aime aussi beaucoup dans Ésaïe chapitre 55, c'est vrai. Hein? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et il y a des choses, justement, nous ne comprenons pas. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que lui connaît. Lui connaît les pensées qu'il a à mon égard. Et il me dit, ce sont des pensées de paix. Alors je suis tranquille. Lui le sait. C'est pas nécessaire peut-être que moi je le sache. Mais je sais que mon Père sait. Et que même mon Père connaît toutes mes pensées. C'est tout le psaume 139 que vous avez devant vous à méditer. Il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Mais voilà, il arrive qu'avec le psalmiste, notre âme soit troublée, et alors on en appelle à la miséricorde divine, elle vient à notre secours. Et je voudrais vous enlever ces idées qu'il n'y a que dans l'enfance spirituelle qu'on a des moments pareils. Non, dans toute la vie chrétienne, on a de ces moments où on est replongé dans certaines épreuves et on dit, jusque là quand, Seigneur? Prenez le psaume 6, un psaume de David. Au verset 2, il dit, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? » Voilà. Moi, je suis dans cette situation-là, mais toi, Éternel, toi qui as les points, jusqu'à quand? Mon âme est toute troublée, mais toi, jusqu'à quand? Voilà un texte. Prenons-en encore un autre. Je prendrai le psaume 13. Psaume 13, vous avez 4 jusqu'à quand, c'est encore de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Verset 3, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Voilà 4 jusqu'à quand de la même personne qui connaît pourtant le Seigneur. Puis alors verset 4, Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, comme c'est beau, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Parce que il y a des moments où on peut arriver jusqu'à cette idée-là, mais je m'en vais mourir, je ne vais pas supporter cela. Job l'a dit, quelle est ma force pour que j'attende, quelle est ma fin pour que je patiente. Puis alors on pense, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, hein, ceux qui nous ont dit déjà, où est ton Dieu? Où est-il ton Dieu? Dieu est engagé dans notre vie. Alors on lui rappelle cela. Alors vous avez le verset 6. Moi j'ai confiance en ta bonté. Oh, que nous puissions vivre cela. Moi j'ai confiance en ta bonté. Mais, vous voyez, ça ne doit pas rester des paroles d'un psaume. Ça doit s'inscrire dans notre sensibilité. Et alors dans une épreuve, le Saint-Esprit nous rappelle cette parole. Puis nous dit, oui, je passe par ces vagues, j'ai ces mauvais moments, mais tout à coup, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur, malgré tout, malgré mes difficultés, malgré mes épreuves, j'ai quand même de la joie dans le cœur. Et c'est vrai, ça. Même dans nos deuils, nous pouvons connaître cette joie la plus profonde. C'est incroyable, c'est pas connaissable, c'est divin, oui. On est quand même heureux alors que tout a changé. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de quoi? À cause de ma situation? Non. À cause de ton salut. À cause de ce que tu prépares, à cause de ce que tu veux faire. Mais il faut croire que nous avons un Dieu qui va faire quelque chose. Vous ne pouvez rien faire. Ben oui, ben Seigneur, je te dis que je ne peux rien faire. Alors, interviens. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien, comme c'est beau. Je chante à l'Éternel. Pouvoir chanter des cantiques, même au sein de notre affliction. J'aime beaucoup ces versets. Luther, en commentant ce psaume, a dit ceci, parce qu'il semble qu'il y a vraiment une contradiction. Mais la contradiction, elle est dans l'âme de celui qui supplie. Elle est en nous, elle n'est pas en Dieu. Et Luther disait qu'il est des moments où l'espérance commence à désespérer et où pourtant le désespoir espère encore. C'est ça la contradiction. Il y a des moments dans notre vie où l'espérance commence à désespérer, mais où pourtant le désespoir espère encore. Voilà ce que disait Luther en commentant ce psaume. Et c'est vrai qu'on se dit, mais Dieu m'a oublié. Alors quelle est la parole? On l'a vu hier soir. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion des fruits de ses entrailles? Vous dites que je vous ai oublié? Une femme peut oublier, mais moi, je ne t'oublierai pas. Alors on s'accroche à cette parole. Non, je ne suis pas oublié. Puis il peut sembler que le Seigneur nous cache sa face. Et alors c'est pour ça que nous sommes tristes, mais quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Sa face est un rassasiement de joie. Mais je sais très bien quand le ciel est couvert, je vois plus le soleil. Mais est-ce que le soleil n'existe plus? Le soleil, lui, encore. Il n'y a qu'à prendre un avion. On part dans la crasse. Et puis au bout d'un certain moment, hein, on est de nouveau dans le soleil. Le soleil est au-dessus, tout Seigneur. Alors c'est cela, il faut savoir, mais ça ne change pas. Du côté de Dieu, ça ne change pas. Il est là. Et je vais attendre. Et Dieu est un Dieu de mesure. Il n'envoie pas au-delà de nos forces. Alors voilà, on agite des projets dans notre âme, on se consulte intérieurement, on laisse travailler notre imagination, et alors voilà, la tristesse, le chagrin qui remplissent notre cœur. Mais ne vous occupez plus de ce souci, vous l'avez remis au Seigneur. Occupez-vous du Seigneur. en vous réjouissant, comment vas-tu t'y prendre, Seigneur, pour me délivrer? Ça vous donne une toute autre vision. Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas faire quelque chose. Alors, au lieu de m'occuper de mon souci, je l'ai remis au Seigneur. Maintenant, je m'en occupe. Quand vous avez été trouvé un avocat, puis que vous lui avez remis votre cause, l'avocat vous dit, maintenant, vous vous occupez tout de suite, parce que vous me gêneriez. Il ne faut pas gêner l'action du Seigneur. Vous lui avez remis la chose, maintenant c'est lui qui va prendre en main votre cause. Et il sait ce qu'il devra faire. On n'a pas besoin de lui donner des conseils. Lui fait confiance. Alors regarde, réponds-moi. Illumine mes yeux. Car on ne voudrait pas que notre ennemi triomphe. Puis alors justement, c'est là que je voudrais vous donner quelques pistes de réflexion en vous citant simplement quatre hommes. Parce que nos ennemis qui voudraient triompher, le premier c'est Satan. Mais quelquefois aussi, ce n'est pas toujours Satan qui est là comme ennemi. C'est peut-être nos frères. Et ça c'est encore pire. Quand l'épreuve vient de nos propres frères, et je vous citerai un cas à méditer. Et puis, quelquefois, c'est tout un peuple. Je pense à Job. Ce n'est pas pour faire cette histoire, mais je vous dis, méditez sur Job. Qui est derrière toutes ces épreuves? C'est Satan. Et quand l'épreuve augmente, quand l'épreuve s'allonge, bien, Job a de très mauvais moments. C'est un homme pieux, Dieu a rendu témoignage de lui. Il n'y en a pas un comme lui, par ses droits, craignant Dieu et sortirant du mal. Il y a des moments où il n'en peut plus. Et surtout quand ses ennemis, ses amis, viennent, et au fond, sont des consolateurs fâcheux, qui augmentent encore sa peine et sa douleur. Et lui, à ses amis, vous savez ce qu'il leur dit? Jusque dans quand affligerez-vous mon âme par vos paroles? Il est mieux de vous taire. Jusque dans quand affligerez-vous mon âme par vos paroles? Voilà un jusque dans quand. Puis alors au chapitre 23, un chapitre que j'aime particulièrement, où il dit, encore aujourd'hui ma plainte est amère. La main qui s'appesantit sur moi est plus pesante que mon gémissement. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais parvenir là où il est assis, hein, j'aurais une discussion avec lui. Mais voilà, il se cache à droite, je ne le vois pas à gauche, je ne le vois pas devant, je ne le vois pas derrière, et il nous montre qu'il ne le trouve nulle part. Et alors il est dans la détresse, mais pourtant il s'écrie. Pourtant, il connaît la voie que je suis, il m'éprouve, je sortirai comme de l'or. Mais il passe par ce moment de nuit profonde, de nuit obscure. Mais le Seigneur permet cela parce qu'il est ambitieux pour Job. Mais il a ces moments de détresse. On n'est pas des stoïques dans nos épreuves. Alors souvenez-vous, quand vous passez par là, que vous n'êtes pas seul, que Job avant vous y a passé, que Satan a tout fait pour qu'il maudisse Dieu et qu'il meure. Mais le Seigneur, vous connaissez la réponse du Seigneur pour Job. Job a été délivré et finalement c'est lui qui a prié pour ses amis. C'est lui qui a été le moyen de bénédiction à ses amis. Voilà, je vous laisse méditer sur Job. Mais il a pu se demander jusque à quand? Jusque à quand, Seigneur? Ça, c'est la question pour Job. Jusque à quand? Maintenant, je prends Joseph. Alors là, et je rejoindrai le psaume 105 que notre frère Alice m'a frappé. Parce que la fin du psaume 105, enfin, dans le cours du psaume 105, il y a la révélation au sujet des épreuves de Joseph. Je ne vais pas vous faire l'école du dimanche, puis on peut aller très vite ici. Vous connaissez cette histoire de Joseph, mais repassez-la dans votre cœur. Voilà, Joseph veut être un bon garçon, il est bien enseigné par son père, il a perdu sa maman et c'est son père qui lui a fait son catéchisme. Parce que c'est les parents qui ont la responsabilité d'enseigner leurs enfants, d'abord. J'ai dit souvent, si vous avez des petits-enfants, ne pensez pas ils apprendront ça à l'école du dimanche, c'est une très bonne monitrice. Mais maintenant, ils sont trop commencés même. Quand ils sont tout petits. J'ai béni ma fille l'autre jour à Nazareth parce que je la voyais prier avec à haute voix avec mon dernier petit-fils, qui est un petit arabe. Et elle, ça m'a fait tellement de joie. Le petit avait ses mains jointes, et là que quelques mois, mais elle priait avec lui. Et on voyait sur ses yeux qui suivaient sa mère, les lèvres de sa mère. On dit, mais tu vois, à quoi ça sert, faire ça? C'est pas de la singerie. C'est pas de la singerie. Ça s'intruse dans l'âme de l'enfant. Puis un jour, il comprendra. Vous n'aurez pas besoin de lui dire, loin les mains. Il saura ce que c'est. C'est cela qui est tellement merveilleux. Et ça, c'est le travail d'une maman. Et puis, voyez-vous, jusqu'à 6 ans, tout ce que vous pouvez enseigner vous-même à votre enfant. Puis si on n'a plus de maman, bien c'est peut-être le papa alors qui doit entrer là-dedans, qui doit soutenir la maman. Puis alors, pour parler à son enfant, il faut se préparer soi-même. Et il faut lire la parole parce qu'on ne peut pas lui faire une lecture. Et il faut pouvoir lui apporter le message. Alors il faut en être rempli, puis être sérieux et dire la vérité, parce que la vérité, elle sort des bouches des enfants, et ils nous la diront si nous ne la disons pas. Mais voilà Joseph qui était un enfant obéissant, il a obéi à son père, puis qu'est-ce qui lui arrive? Il est vendu par ses frères, vous connaissez toute cette histoire. Sa fidélité n'est pas du tout récompensée. Il est vendu comme esclave, et puis là, eh bien, le Seigneur est avec lui, et puis quand le Seigneur est avec une personne, on le voit. Il n'a pas besoin de dire que le Seigneur est avec lui. On voyait, le monde voit que le Seigneur est avec lui. Et on en rend témoignage. Le Seigneur est avec lui. Alors, son maître, Potiphar, le place comme à la tête de sa maison. Mais il y a l'épreuve avec la femme de Potiphar. Il résiste à cette séductrice. Et pourtant, il aurait pu dire, ben, c'est pas moi qui l'ai cherché. Je suis un homme comme un autre. Pourquoi est-ce que je ne saisirai pas cette occasion? Bien non. Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Moi, ça m'émeut toujours. Vous direz que je me répète, je l'ai dit souvent ça, mais je le répète aux jeunes. Voilà un homme qui est élevé au pays des hommes sans Bible, qui n'a eu que son père Jacob, qui avait eu pourtant bien des lacunes, bien des manquements, mais il lui avait inculqué certains principes. Et Joseph, seul, pouvant être dégoûté de tout, de la religion même de son père, quand il voyait ce que ses frères faisaient, parce que ses frères, c'était pas beau ce qu'ils faisaient. Ses frères, ce qu'ils faisaient, mais c'était horrible. Un, il couchait avec une femme de son père, Siméon et Lévi, eh bien, ils étaient des violents, ils assassinaient. Dina, elle se faisait enlever. Enfin, c'était une drôle de famille, la famille de Jacob. C'est une drôle de famille, mais il y avait Joseph. Est libéré, alors que Joseph lui a dit, souviens-toi de moi, il est dit, il l'oublia. C'est beau. C'est l'oublia. L'oublia, ce qui arrive. On n'est plus dans la détresse. Alors on oublie ceux qui nous ont aidés. Il l'oublia. Alors c'est là que j'en reviens au psaume 105, parce que c'est ça que je trouve formidable. Psaume 105 nous donne une lumière. Et voyez-vous, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut lire toute la Bible. Et tout à coup, justement, comme notre frère le disait, on met certains versets sur des tablettes, puis après on arrive au psaume, puis tout à coup ça nous ramène à la Genèse. Tiens, c'est toi, je l'ai. C'est comme un pulse, hein. Alors, tout à coup on a trouvé le dernier, là, et on peut le mettre. Psaume 105, verset 17, oh, verset 16. Il appela sur le pays la famine. Il dira, qui est-ce qui est responsable d'une famine? Oui, il y a des responsabilités humaines, mais au-dessus de tout, c'est Dieu. Hein? Alors soumettons-nous aux dispensations de Dieu, entrons dans les pensées de Dieu, et si c'est un temps de famine, bien que je sache vivre au temps de la famine. Il y a peut-être une manière de vivre en temps de famine, oui, il y en a une. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Qui ici coupe les moyens de subsistance? Pas nécessairement un patron. C'est des fois Dieu. Parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. On l'a entendu le témoignage de mon frère ce matin. Il avait quelque chose de meilleur pour lui. Et voilà, certains moyens de subsistance sont coupés aussi. Humainement parlant. Mais qui est-ce qui nous fait subsister? C'est Dieu. C'est tellement beau. Mais il ne faut plus que ce soit dans la Bible, dans le livre seulement. Il faut que ce soit dans nos cœurs, sur les tables de notre cœur. Et il coupa tout moyen de subsistance. Verset 17. Il envoya devant eux, devant qui? Devant les frères de Joseph. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens et on le mit au fer. Ça, c'est pas dit dans le chapitre de la Genèse. Il est dit qu'il a été jeté en prison, mais là, on a un petit traitement. Il n'a pas été gâté. Il a été mis au fer. Jusqu'au temps, alors voilà, jusque-là quand, Seigneur? Jusque-là quand? Jusque-là quand? Jusqu'au temps. Oh, c'est beau. Où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Vous voyez, on est éprouvé par la parole. Il nous met à l'épreuve. Alors, quand le temps est venu, le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, qui était ce roi, c'était Pharaon, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner les princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte. Alors maintenant vous pouvez retourner dans la Genèse et voir comment Joseph a été avec ses frères et comment il a cherché à les éduquer pour les amener à se repentir. Il n'a pas voulu les humilier, parce que des fois on se dit mais comment est-ce qu'il a pu faire des choses comme ça, Joseph? Il n'avait qu'un but, qu'un dessein, il était dans la main de Dieu. Il avait été enseigné lui-même, parce qu'il a été enseigné jusqu'à quel âge? À 30 ans il est sorti de prison. Et il a régné sur l'Égypte à 30 ans. C'était l'âge de qui? De Jésus, quand il a commencé son ministère. Mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à l'âge de 30 ans, il a passé par ses épreuves. Jusqu'à quand? Bien, jusqu'à ce que je t'ai formé, que je t'ai éduqué pour la mission à laquelle je te destine, et c'est de sauver tes frères. Bon, ça, c'est merveilleux. Bon, je t'ai fait passer par tout cela pour que tu puisses sauver tes frères. Tes frères qui étaient au fond tes ennemis. Ils voulaient se débarrasser d'eux, ils étaient ses ennemis. Ils voulaient le tuer. Quelqu'un qui veut tuer, c'est un ennemi. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Eh bien, Joseph, quel exemple. Et on nous dit qu'il n'y a pas l'évangile dans l'Ancien Testament. Les exemples de l'Ancien Testament, ils sont actuels, ils sont vivants. Repassez cette vie de Joseph. Et alors, maintenant, vous allez dans la Genèse, et puis, vous voyez Joseph qui se fait connaître à ses frères, chapitre 45, et vous verrez comment on doit leur parler. Ça m'émeut toujours. Chapitre 45 de la Genèse. Quand il se fait connaître à ses frères, quand il leur a dit, je suis Joseph, verset 3, et Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père, dit-il encore, mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Il y a de quoi, hein? Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. C'est pas que c'est merveilleux. Approchez-vous de moi. Eux, quand ils l'avaient vu s'approcher à d'autres temps, ils disent, Le voilà, ce maître songeur. Jésus maintenant dit, approchez-vous de moi. Et il s'approchait, et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ça vaut le coup. Hein. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Mais pas que c'est beau, ça? Mais voilà, voilà le pourquoi. Pourquoi? Pour vous sauver la vie. C'est pour vous sauver la vie. Voilà un Dieu qui sait tirer le bien du mal. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous connaissons ce Dieu-là? Est-ce que nous avons affaire avec lui personnellement en 1985, dans cette soirée? Voilà ce que nous apprenons jusque-là quand. Mais c'est Dieu qui a tout mesuré. Puis, il insiste. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Après la mort de Jacob, nous lisons encore ceci au sujet des frères de Joseph. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Oui, Joseph avait su attendre la délivrance de l'Éternel. Après Job et Joseph, méditez encore sur la vie de Moïse, et vous y verrez un autre homme qui pouvait dire lui aussi, jusqu'à quand? Ce Moïse avait appris par sa mère comment Dieu l'avait préservé miraculeusement de la mort. Et pendant les années où il fut allaité par sa propre mère, il reçut d'elle un enseignement concernant le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était aussi le Dieu d'Aram, son père. Devenu plus tard fils de la fille du Pharaon, son cœur resta donc attaché à son peuple. Et quand il sortit des écoles égyptiennes, alors qu'il était en pleine forme, à l'âge de 40 ans, Moïse ne doutait pas que Dieu l'avait choisi pour être l'instrument de la délivrance des Israélites opprimés. C'est ce que nous lisons d'une façon claire dans le discours d'Étienne, dans le livre des Actes. Mais vous connaissez tous l'histoire de Moïse et je n'ai pas besoin d'allonger. L'erreur de Moïse, c'était d'avoir devancé l'heure de Dieu. Il était 40 ans en avance sur le dessein de Dieu. Et ce fut l'échec, suivi de sa fuite et de sa dure école d'exilé au pays de Madian. Que de fois Moïse dut-il se dire, jusque à quand? Pendant 40 ans, il fut berger des troupeaux de son beau-père Jéthro. Mais, quand l'heure de Dieu fut venue, Moïse eut la vision du buisson ardent. Toutes ces choses, vous les connaissez. Et nous comprenons bien que c'est lorsqu'un homme se croit fini que Dieu vraiment peut intervenir et opérer par lui. Dieu avait préparé Moïse par de dures épreuves à devenir le libérateur de son peuple. Et rien, quand l'heure de Dieu fut venue, ne put faire obstacle à la puissance de celui qui devait lui dire « j'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu son cri et je suis descendu ». Si Moïse s'était demandé plusieurs fois jusqu'à quand durerait son épreuve, une fois devenu le libérateur d'Israël, il dut entendre plusieurs des jusqu'à quand de Dieu. Écoutons plutôt dans le livre de l'Exode au chapitre 16, au verset 28, nous lisons: alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Puis, si j'ouvre le livre des Nombres, au chapitre 14, verset 11, je lis cette parole. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Puis, si nous lisons le verset 27, nous trouvons encore: l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. En méditant sur ces jusqu'à quand de l'Éternel au désert, vous retrouverez sans peine celui qui, en Jésus, pouvait dire dans les évangiles, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Le Seigneur de l'Ancien Testament est le même Seigneur que celui du Nouveau Testament. Seulement, dans l'Ancien Testament, nous le voyons avant son incarnation. Mais c'est toujours le même Seigneur. Qu'aujourd'hui, les leçons de Moïse nous servent et que nous soyons gardés de toute précipitation, que nous ne cherchions pas à réaliser nous-mêmes des prophéties bibliques. C'est ce qui arrive peut-être actuellement au peuple d'Israël, qui veut, avant le temps et par ses propres efforts, réaliser les promesses bibliques pour cette nation. Même si l'État d'Israël connaissait aujourd'hui un échec, cela ne nous empêcherait pas de croire aux prophéties bibliques concernant le rétablissement futur des Juifs en Palestine. Mais il faut que ce soit l'heure de Dieu. Attendons donc pour nous-mêmes son heure et soyons prêts pour son action. Ne soyons ni en avance ni en retard, mais simplement disponibles pour Dieu afin qu'à son heure, son plan se réalise par nous. Le dernier exemple que nous prendrons ce soir d'un homme éprouvé et qui pouvait se poser cette question jusqu'à quand sera celui de David, le doux psalmiste d'Israël. Vous savez comment ce jeune homme se savait choisi par Dieu pour être roi en Israël. Samuel, le prophète, l'avait oint à Bethléem, mais jusqu'au temps où il pourrait accéder au trône d'Israël, bien des épreuves devaient être sur le chemin de David. Certes, l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Mais Saül, loin du Seigneur, était encore sur le trône. Dieu accomplira lentement son plan, mais, répétons-le, le chemin de David pour accéder au trône d'Israël passera par de longues épreuves. Vous le voyez, à un certain moment, avoir une place près de Saül. Il joue de la harpe qui dissipe le mauvais esprit qui est tombé sur Saül. Puis, David va plus loin. Il se fait connaître comme un héros en tuant Goliath. Il devient alors l'ami du fils de Saül, Jonathan, puis il sera gendre du roi. Mais alors, Saül le jalouse et devient son ennemi. Il veut même tuer David, qui doit fuir et trouver un refuge dans les déserts, les montagnes, et les forêts, et Saül le poursuit partout. David connaît d'amères détresses et de terribles tentations, et c'est dans les psaumes qu'il a écrit que vous pouvez découvrir les cris de son âme et connaître aussi les réponses que Dieu lui donnait. Par deux fois, il eut l'occasion de se débarrasser de Saül, mais il refusa de porter la main sur loin du Seigneur. Pour David, l'heure de la délivrance serait celle de Dieu. Il ne se délivrerait pas lui-même. Et nous dirons même que c'est lorsque David fut dans la plus grande de ses épreuves que la délivrance était la plus proche. Si vous lisez le chapitre 30 du premier livre de Samuel, vous verrez comment David, arrivant dans la ville de Tsiklag, qui lui avait été donnée par le roi des Philistins, trouva cette ville détruite, brûlée par le feu. Les Amalékites avaient attaqué Tsiklag et l'avaient brûlée, emmenant les femmes et les enfants prisonniers, tous ceux qui se trouvaient dans la ville, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, dit-on, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Et au verset 3, nous lisons, David et ses gens arrivèrent à la ville. Voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force pour pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Kinoam de Jisraël et à Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et nous lisons, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Et en lisant tout ce chapitre, nous apprenons comment Dieu lui accorda de pouvoir battre les Amalékites et de retrouver non seulement tous leurs biens, mais leurs femmes et leurs enfants. Et c'est quelques jours après cette grande détresse et cette délivrance que David devait apprendre la mort de Saül, la mort de son ennemi, la mort de celui qui était l'obstacle à son accession au trône d'Israël. Et comment reçoit-il la nouvelle? Est-ce avec des cris de joie? Non. Quand il apprend que Saül, son ennemi, est mort, il pleure et il compose ce merveilleux cantique funèbre où il loue son ennemi, il loue Saül, il souligne les grands faits de Saül et plus particulièrement encore de Jonathan, son fils et son ami. Oui, les jusques à quand de David étaient terminés et rien n'empêcha le Seigneur d'accomplir ce qu'il avait dit par la bouche de Samuel. Nous savons que David devint roi sur Israël et qu'il régna 40 ans. Mais jusqu'à l'âge de 30 ans, comme cela avait été le cas pour Joseph, David avait connu les épreuves et avait été formé, préparé pour régner par les épreuves. Jusqu'à quand? Le Seigneur le sait. Pour nous-mêmes, dans nos propres circonstances, faisons-lui confiance. N'essayons pas de nous délivrer par nous-mêmes, mais attendons la délivrance qui vient de l'Éternel. Nos temps sont dans sa main, comme le dit l'Écriture. Nos temps sont dans sa main.
Seigneur manifestera sa puissance. Mais comment va-t-il nous délivrer? C'est le sujet que nous traiterons, Dieu voulant, demain. Comment? Comment maintenant? Voilà un autre cri que nous trouvons dans l'Écriture. Et ce sera notre méditation de demain.